incroyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30. Bonjour et bienvenue dans Nos Adorés. Aujourd'hui, nous recevons Anne de Saint-Vaulry. Pour les auditeurs attentifs, nous l'avions déjà reçue une première fois au tout début de cette émission. Et nous la recevons donc une seconde fois avec plaisir. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est « Ce n'est pas grave d'être un ado ».
Oui.
Oui.
Oui, c'est normal.
C'est un thème qui nous est venu à toutes les deux en préparant l'émission. À un moment, on s'est dit « Non mais en fait, ce n'est pas grave du tout ».
Oui, oui, il faut arrêter. Ce n'est pas un sujet tabou. Et c'est, il ne faut pas enfermer les ados. Voilà, c'est tout de suite, on colle une étiquette à l'ado. Donc, si c'est à l'ado, il est comme ça, il est comme ça. Donc, il est colérique, il est énervé, il ne travaille pas, il est paresseux. Enfin, non. Ça fait partie de la croissance, de la suite logique. Hein. Voilà, on est bébé, on est jeune enfant, on est ado et on devient adulte. Mais si on veut devenir adulte, il faut être ado.
C'est ça. Et puis si votre ado n'est ni paresseux et qui travaille très bien, qui se lève tous les jours à l'heure et qui pratique énormément de sport...
C'est aussi un ado.
C'est pas grave non plus.
Non, c'est pas grave. Parce que c'est aussi un ado.
Malgré tout.
Malgré tout.
Voilà. Donc Anne de Saint-Vaulry, toi tu es à la tête de l'atelier des apprentissages à Strasbourg.
Oui.
Voilà. Et tu vas nous expliquer un petit peu comment, à la quarantaine, hein, il me semble, alors que tu es mère de 4 enfants, tu t'es un peu orientée vers la remédiation cognitive.
Alors oui, c'est remédiation plutôt sensorimotrice.
Pardon.
D'accord. Oui, mais qui a un impact sur la partie cognitive. Ouais. Oui, à 40 ans, voilà, l'envie de m'orienter vers les jeunes, les enfants, les ados, les adultes, de prendre soin des autres, parce que je me rendais compte que je ne prenais pas assez soin de moi et de ma famille à travers le métier que j'avais. Et voilà, cette envie de tout bouleverser, de tout changer. Un peu une petite crise d'adolescence, finalement,
à
40 ans.
Bah oui,
envie
pas.
De tout envoyer balader et puis de mettre mes codes comme j'avais envie. Voilà, mes propres codes à moi et pas ce qu'on m'avait demandé de mettre en place.
Tout à fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les méthodes que toi, tu emploies pour rééduquer tout ça... c'est des méthodes qui sont assez méconnues pour l'instant en France.
Oui, c'est pas très connu parce qu'on passe beaucoup par le mental.
On parle beaucoup. De la psychanalyse finalement.
Oui, voilà.
Alors que...
Pourtant, bon, c'est peut-être plus freudien. Enfin, ouais, c'est pas français d'origine en plus. Alors moi, c'est pas du tout français d'origine. Hein. Ça vient de Belgique, ça vient des États-Unis, ça vient de Suède, d'Allemagne. Voilà, mais on n'est pas dans des méthodes franco-françaises, hein, donc c'est pas du cru. Je suis allée les chercher un petit peu ailleurs pour sortir encore des sentiers battus, hein, parce que c'est normal, j'étais encore en crise d'adolescence, hein, donc
on
il fallait que voilà, on
en
vient.
Et
du coup, je suis allée chercher moi ce que j'avais envie de faire avec voilà ce qui me plaisait et pas ce que les autres me demandaient de faire. Donc et je suis tombée sur toutes ces méthodes qui étaient plus corporelles, qui étaient plus sensorielles, et où on n'était pas obligé de parler.
Qui
mène à la parole. Juste déjà se sentir bien dans son corps et comprendre comment on fonctionne, comment pour nous permettre de bien penser aussi. Si mon corps fonctionne bien, eh ben je pense bien et je suis bien dans ma tête et dans mon corps. Voilà,
ah oui, c'est
tout.
Vrai.
Donc c'est l'entrée pour moi, c'était l'entrée de base, c'était la source évidente.
Merci. Tout de suite, Anne, on va remonter un peu dans le temps.
Et maintenant,
c'est l'heure de la rubrique.
Et vous, quel ado étiez-vous ?
Alors rapidement, oui, dis-nous Anne, quel ado tu étais ?
Poupée de porcelaine, hein, voilà ce que j'ai dit, hein, parce que c'est ce que j'ai toujours entendu de mes parents, de mes grands-parents, de tous les gens qui me connaissaient.
L'enfant plante verte ?
Oui, un peu, hein, qui était bien comme il fallait, parce qu'on la voulait comme ça, et puis qui a explosé à 15 ans.
Voilà. Classique.
Voilà, classique, et heureusement que j'ai explosé.
Oui.
Et voilà, qui est un peu l'ado rebelle, qui a décidé de faire ce qu'elle voulait, quand elle voulait. Mais toujours avec un cadre bienveillant à la maison. Voilà.
Oui, c'est-à-dire que tu avais quand même le droit à l'écoute de tes parents.
Oui, l'écoute de mes parents, de mes grands-parents.
De tes grands-parents aussi.
Aussi, ouais. Qui ont compté énormément dans ma vie. Donc voilà, oui, non, ça a été... mais il a fallu que j'aille vivre, que j'aille un petit peu outrepasser les limites, le cadre qu'on m'avait imposé. Voilà, un peu me brûler. Brûler les ailes pour savoir qui
gentiment.
J'étais.
Gentiment.
Oui, oui, c'était gentiment.
C'était
gentiment parce que j'étais bien entourée, mais j'avais besoin d'y aller.
D'accord. Merci Anne. Donc dans la première émission qu'on peut donc retrouver en podcast sur le site de Radio Judaïka, tu nous avais parlé un peu de ta pratique auprès des adolescents et de ce que tu pouvais leur apporter. D'accord. Donc ça, on va peut-être pas aller trop dans la redondance. Par contre, tu nous avais parlé de toute la confusion que ça peut générer par rapport à tous ces changements, tant physiques que mentaux. Et on a envie de le redire, c'est pas grave. Mais comment les aider à être plus sereins face à tous ces changements, justement?
C'est vrai qu'il y a des changements, les changements du corps, déjà, les changements corporels.
Oui.
Il y a aussi les hormones qui viennent titiller, ça
tout
c'est
à
sûr.
Fait.
Et puis qui influent aussi le comportement de l'adolescent, son tempérament, son comportement, son caractère sur ces quelques années. Et c'est vrai que... c'est difficile en fait d'appréhender ces jeunes. C'est vraiment pas facile d'aller les toucher parce que c'est une telle tempête en eux, c'est une telle tempête émotionnelle et corporelle que on y va. Enfin moi personnellement, quand je travaille avec eux, j'y vais vraiment progressivement. Donc j'y vais déjà par. Je vais pas tout de suite travailler avec eux par le corps, mais je vais travailler avec des exercices un petit peu plus ludiques. On va rentrer dans une forme de confiance, un autre dialogue, tranquillement, progressivement, pour après aborder d'autres choses avec eux.
D'accord. Donc, comment tu fais, toi, pour instaurer une relation de confiance avec un ado? Parce que, bon, ça peut être peut-être des trucs et astuces qui peuvent nous servir aussi en tant que parents.
La relation de confiance, c'est que je ne juge pas. J'écoute. S'ils me demandent des conseils, je peux leur donner. Mais je ne suis pas là pour... je fais un état. C'est purement factuel ce que je leur établis.
D'accord.
C'est eux comment ils fonctionnent. Donc après, ils l'acceptent ou ils ne l'acceptent pas. Mais généralement, ils l'acceptent. Parce que c'est factuel et on leur apporte en fait des arguments. En disant, tu vois, là, pour toi, c'est dur. Il me fait, oui, là, en effet, pour moi, c'est très difficile
très
en fait,
intéressant.
De faire ces choses-là. Donc en fait, on va à la source du problème. Et il le comprend. Et il l'assimile, et après, il se dit, est-ce que j'ai envie de changer les choses ou pas? Après, il faut que le jeune soit prêt à changer les choses, et envie de le faire. Mais en tout cas, de lui donner un état de fait, et que ça ne soit pas des suppositions, ou un truc intuitif, ou un étiquetage, c'est se dire, ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a ça, il y a ça. Ou, là, tout fonctionne bien en toi, c'est juste qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, et que, c'est peut-être rassuré, c'est peut-être mettre aussi... un cadre avec les parents, quoi.
Oui, parce que tu penses que quelquefois les parents ont trop d'attentes, ont peut-être trop étiqueté l'adolescent avec des t'es maladroit, t'arriveras à rien.
Oui, on est souvent un petit peu dans la formulation rapide de dire de toute façon, c'est un adolescent, de toute façon, il se passe rien, là, c'est nul, comment tu peux avoir des notes comme ça, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire de toi, qu'est-ce que tu vas devenir, voilà. Et du coup, c'est affligeant, quoi.
C'est dur
parce que ça les rabaisse énormément et c'est là, en fait, où ils ont besoin d'être encouragés, d'être construits, qu'on les accompagne, en fait. Il est à côté de nous, on le tient par la main, mais c'est très léger, la manière dont on le tient par la main. C'est pas comme un enfant où on le serrait fort avant. Il reste peut-être un contact très subtil, mais ce contact, il faut le garder. C'est très
important.
Ils sont
en recherche de contact.
Ils sont en recherche de cadre.
On en reparlera tout à l'heure dans les questions d'ados, parce que moi, j'ai été très touchée par certaines de ces questions, justement.
Ouais.
On y reviendra plus tard. Donc, par contre, les adolescents le savent mieux que nous. Les réseaux sociaux, les smartphones ont leur lot de dangers. Est-ce que tu as déjà eu affaire à un ado qui est victime de harcèlement ou de phobie scolaire dans ta pratique?
Oui, malheureusement. Et beaucoup. Et là, le point sur lequel je suis contente, c'est que ça se démocratise et c'est qu'on en parle de plus en plus. Et ça, en fait, c'est triste, mais il y en a toujours. Ça touche pas que l'ado, ça se touche aussi l'enfant, la petite enfance, ça commence très jeune. Et généralement, voilà. Donc oui, c'est les enfants qui viennent me voir pour souvent des phobies scolaires ou du harcèlement. Alors, phobie scolaire... C'est très difficile, parce que quand on est dans la phobie, il faut vraiment avoir un accompagnement. Il y a des personnes qui sont vraiment dédiées à ça.
On recevra personne qui...
Alors, je ne sais pas si on peut citer son nom, mais
qui
s'appelle Christelle Schnitzler, et qui s'occupe en fait sur tout le Grand Est de l'association Phobie Scolaire.
Avec qui donc nos auditeurs peuvent prendre contact.
Tout à fait. Et que ça, l'association, c'est APS, Association Phobie Scolaire, et c'est Christelle Schnitzler. On la trouve facilement sur Facebook ou voilà, sur le web. Et n'hésitez pas à la contacter quand les parents sont démunis, quand ils savent que les adolescents,
ah oui, il faut y aller, hein.
Les adolescents ne veulent plus aller à l'école, les adolescents sont en retrait, appelez Christelle Schnitzler et elle oriente tout de suite, immédiatement, et elle prend en charge tout de suite ces jeunes-là. Elle est formidable, elle fait partie, elle est appelée maintenant sur toute la France, elle fait des tas de conférences, ouais.
Elle est
vraiment
très,
super.
Très occupée.
Ouais, elle est très occupée.
Peut-être un peu de mal à la voir, mais
elle est très très calée là-dessus. Après, c'est vrai qu'on a aussi le phénomène donc du harcèlement, et là, le harcèlement aussi, ça, c'est des choses qu'il faut surtout pas laisser passer, se dire bon, bah allez, ça s'est arrêté, ça va se reproduire. Là aussi, il existe, enfin, moi, je prêche pas pour ma paroisse, je prêche en fait surtout pour les jeunes et
bien
pour
sûr.
Les parents, leur donner. Il y a un site qui est sur le site du gouvernement qui s'appelle Harcèlement à l'école. Et donc là, on vous explique toutes les procédures, si c'est l'enfant qui est harcelé,
oui, c'est bien
ou
fait.
Si c'est le harceleur. Mmh. Et il y a des dépositions, il y a des choses, il ne faut pas laisser passer ça. Il faut écouter son jeune, il faut l'accompagner et mettre en place les choses pour que ça ne se reproduise plus et qu'il se sente aussi en confiance, il se sente entouré et sécurisé.
Mais malgré tout, je me permets quand même de redire qu'il y a une responsabilité des parents dans le sens où il faut qu'il y ait une gestion de l'utilisation de ces smartphones. Autant pour le harceleur que pour le harcelé, ça veut dire qu'il y a quand même... C'est souvent sur les réseaux sociaux, hein, maintenant. La fenêtre, elle est quand même large. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement harcelé à l'école, on peut être harcelé H24.
Tout à fait. Alors, il y a le harcèlement direct, le harcèlement humain, mais on a aussi le harcèlement, comme tu dis, Julie, le harcèlement avec tous ces smartphones. Aujourd'hui, ils vivent, ils sont dans l'immédiateté, ils sont dans la communication immédiate. C'est-à-dire qu'on ne parle même plus. Je suis à côté de mon ami, mais je lui parle par texto, je ne lui parle plus en direct. Hein. Et non, c'est vrai qu'en fait, cet harcèlement, pour recentrer, et c'est bien de le recentrer par rapport à ça, c'est que c'est souvent du harcèlement qui passe en fait par ces réseaux sociaux et partout, ces Instagram, enfin ça, voilà, ils sont tous connectés et c'est très difficile. Donc il faut avoir une surveillance. Alors maintenant, il existe des choses hein, pour bloquer les téléphones, pour avoir accès.
Il y a la gestion du temps d'écran, il y a la gestion des applications. Alors je sais que là, je vais pas me faire des amis, hein, les ados là, ils vont se dire oulala, mais elle nous dit que c'est pas grave d'être ado, puis maintenant elle veut qu'on nous interdise le téléphone, mais pas du tout. C'est pas la question. La question, c'est de gérer, comme pour nous tous. Hein,
et c'est de mettre un cadre.
Tout à fait.
C'est de mettre un cadre
sécurisant.
Bienveillant, c'est sécurisant. Mm. Et voilà, les parents payent un forfait téléphonique pour leurs enfants, pour les adolescents, mais pour qu'ils soient joignables.
C'est ça.
À la base du
pour
téléphone.
Pour leur laisser finalement plus de liberté.
C'est pour leur laisser beaucoup plus de liberté et que les parents se sentent rassurés quand le jeune va passer du temps avec ses copains. Mais voilà, il faut faire attention, vous les adolescents, je parle aux adolescents, faites attention à la dérive de ces outils qui peuvent demain vous attaquer. Donc c'est surtout, et si un jour vous êtes attaqué, vous en parlez immédiatement à vos parents.
Tout à fait.
Vous ne laissez passer ça. Si, pas passer ça. Si vous ne souhaitez pas en parler à vos parents, vous en parlez à la psychologue scolaire, vous en parlez vers des gens de confiance, l'assistante sociale, des gens de confiance qui pourront vous accompagner et vous aider. Mais ne laissez passer dès la première fois. Il faut réagir.
Tout à fait. Parce qu'il y a souvent ce sentiment de honte ou ce sentiment d'être peu crédible, etc. Vous ne serez jamais considéré ni comme une personne qui doit avoir honte, ni.
Non.
Voilà.
C'est
important de le dire.
Non, non. On n'a pas le droit, en tout cas, de se qualifier de la sorte.
Ah non, pas du tout. Donc, comment tu peux aider, toi, dans ta pratique, à améliorer la confiance en soi et donc, par ricochet, l'estime de soi ?
La confiance en soi, ça part déjà par le sentiment de comment je suis dans mon corps. Si je n'ai pas confiance en moi, c'est que je me sens pas forcément bien aussi dans mon corps.
Oui.
Donc, c'est qu'il y a peut-être un bug dans ma programmation interne. Il y a peut-être un petit parasitage et un petit réglage qu'il faut aller faire dans le corps et comprendre un peu comment moi je fonctionne et quand je fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans mon corps correctement. Voilà. Et puis se dire, ça, on va aller le reprogrammer différemment. Puis tu me diras après comment tu te sens. Et puis on s'aperçoit que on voit les jeunes se redresser.
Ouais, changement posturaux.
La dynamique posturale évolue. C'est des jeunes qui se redressent, la tête est haute, les axes sont bien utilisés. Quand on leur parle, ils nous regardent dans les yeux. Quand ils écoutent, ils répondent immédiatement. Ils ne nous demandent pas de répéter. Ils ne sont plus dans leur monde, en fait. Ils sont là avec nous. Ils sont présents. Et quand on est présent, on peut être, on peut répondre aux questions sereinement. On peut se sentir bien face à l'autre. Et du coup, on a une autre image de soi.
Oui, tout à fait. Et ça a des résurgences sur l'ensemble de leur relationnel aussi, parce que c'est ce qui prime un peu chez eux, c'est le réseau amical. Se fâcher avec les parents, c'est pas très important, on sait qu'ils seront toujours là.
Oui.
Voilà, donc c'est même un peu, peut-être un peu nécessaire, on teste, on tente.
Oui.
Par contre, oui, le réseau amical, c'est ce qui prime chez eux à un moment. Et ça, il faut pas, en tant que parent, je crois qu'il est, il est sage de ne pas le juger.
Oui, oui, c'est assez important. Alors, de ne pas juger le réseau amical, c'est ce que
le fait que ce soit leur priorité à un moment, je crois.
Oui, c'est important parce que c'est l'image que eux renvoient aux autres. Hein. Donc ils se construisent aussi à travers cette image qu'on leur renvoie et qu'ils ont l'impression parce que entre eux. Ce qu'ils ont, l'interprétation qu'ils ont d'eux-mêmes, l'interprétation de la personne en face n'est pas la même. Et c'est ça, en fait. Se dire, mais attends, ce que moi, je pense de moi, l'autre en face ne le pense pas du tout.
Image vécue, image perçue.
Exactement. Mm. Sauf que, voilà. Et donc, plus on se sent bien dans son corps, plus on a le sentiment que l'image qu'on renvoie est bien aussi.
C'est ça. Et plus en adéquation, finalement, avec ce qu'on aimerait diffuser aussi.
Même si l'image qu'on a n'est pas celle perçue par l'autre en face. Problème de perception aussi.
Et oui, et c'est un peu un problème récurrent parent-ado. Est-ce que toi, tu organises donc des petits ateliers apparemment
Oui, alors ce que j'aime bien, c'est souvent les jeunes, ils viennent me voir avec beaucoup de régularité parce que quand ils y prennent goût, ils reviennent. Et puis, on se rend compte que les parents, quand ils sont ados, ils ne viennent pas. Alors que moi, j'aime bien pendant les séances que les parents soient là. Mm-hmm. Donc les parents ne viennent pas. Et j'ai eu l'idée de créer un atelier avec parents-ado. Où les parents peuvent venir pratiquer ce que font leurs ados avec moi en séance. Et c'est là que l'ado se dit « finalement, il n'y arrive pas aussi bien que moi ». Et du coup, on voit quelque chose, une coopération se mettre en place.
Ah, c'est joli.
Et donc, en fait, l'ado va se retourner vers son parent pour l'aider et lui expliquer comment ça fonctionne. Ouais. Et on inverse les rôles.
Ça m'émeut, ce genre de situation. Comment on fait pour avoir les informations concernant tes ateliers ?
C'est bon, ça circule par le biais du site internet.
D'accord.
Donc, c'est ateliersapprentissage.com et qui est surtout des communications via Facebook ou en cabinet.
Donc, on peut te retrouver l'atelier des apprentissages sur Facebook, on te suit et puis là, on aura les infos.
Tout à fait. Les informations sont publiées. D'ailleurs, sur le Facebook, on publie beaucoup aussi d'informations sur le fonctionnement de notre corps, tous les réflexes initiaux dont on a besoin pour se développer.
Il est très intéressant ce site, effectivement.
Et du coup, on a plein de petits articles là, qu'on est en train de publier et ça donne plein d'informations et des fois on peut mettre en relation en fait des dysfonctionnements chez notre enfant et se dire c'est pour ça qu'il se passe ça alors chez lui et c'est pas grave parce que ça peut
corriger. Exactement, c'est ce que j'allais te dire, ce n'est pas grave non plus et c'est encore une fois rassurant à la fois pour l'ado et le parent.
Oui.
On avait parlé aussi en préparant cette émission d'un petit souci que tu avais noté, que tu me dis un peu générationnel, sur la régularité face à une activité qui est proposée, que ce soit chez toi ou ailleurs d'ailleurs, que le parent avait tendance à lâcher, à dire il n'a pas envie de venir, tant pis, il ne vient pas.
Ouais.
Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça ?
Alors déjà, on est dans le phénomène où le jeune, il est un petit peu... il est plus à sortir, à aller retrouver ses copains, à trouver une autre identité. Donc, faire ce que papa, maman me demande, c'est difficile. Il est un peu renfermé sur soi. Oui. Et on n'a pas... si je commence quelque chose et je ne vais pas jusqu'au bout, papa, maman ont tendance à lâcher pour faire plaisir et avoir la paix surtout. Qu'il n'y ait pas de crise. Hein ? Que ça ne rentre pas dans des conflits.
Je ne vois pas du tout de quoi tu parles.
Et du coup, papa, maman, ils vont dire, écoute, si tu veux, tu peux arrêter. Et je pense que c'est là que le rôle des parents est important.
Oui. Hein,
papa, maman et les ados, si vous m'entendez, c'est pas contre vous, c'est pour vous. Parce que si papa, maman, ils disent, écoute, fais ce que tu veux, ça va pas aider l'ado à se construire.
C'est un peu le dernier rempart qui lâche.
Ouais, c'est ça. Mmh. Ça va pas vous aider, vous, les ados, à vous construire. Donc c'est important. Papa, maman, ils ont besoin de mettre ce cadre-là, de vous accompagner. Et de vous, je repense à mon fils l'autre jour qui me disait « Mais maman, tu vas pas me lâcher un jour ?» Et j'ai regardé, je lui dis « Non. Non, j'ai pas prévu de te lâcher, pourquoi ?» et du coup, Et là, il m'a regardé et il s'est dit « Ah, ça va devenir compliqué, je suis foutue. » Mais en même temps, ça le rassure. Ça le rassure quand il rentre à la maison, il est rassuré, il est au chaud. Et il sait qu'il peut parler, il sait qu'il a un cadre. Mais derrière, on a mis des règles. Quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout. Mmh. Et même si on en a marre, on va jusqu'au bout ou on explique à la personne pourquoi on ne veut plus venir.
Et ces ados qui nous écoutent et qui se disent « Ouais, super, tout ça, mais moi, mes parents, ils sont pas là, ils travaillent énormément, je suis tout seul, je me fais à manger le soir tout seul, et quand ils rentrent, je suis déjà couchée. » Qu'est-ce qu'on leur dit à ces ados-là? Ils peuvent chercher de l'aide, on leur a dit tout à l'heure.
Oui, ils peuvent chercher de l'aide. Je pense que la première aide qu'ils peuvent trouver, c'est de proposer des petits moments avec les parents. Mm-hmm. Des petits moments qui sont peut-être des moments un petit peu plus ado-adulte-parents, où je vais peut-être proposer une sortie ou une petite soirée au restaurant le week-end, ou un ciné avec mes parents, ou échanger, ou une visite de musée. Voilà, quelque chose, essayer de recréer le lien qui peut être perdu ou qui peut se perdre. Mais et ça, il faut le dire, il faut le demander.
Non, mais parce que c'est vrai qu'on a tendance à être très présent dans l'enfance, la petite enfance de nos enfants. Et après, on se dit, bon, ben voilà, on lui donne une clé de la maison. Et ouais, puis il rentre,
c'est vrai.
Puis il se débrouille.
On lui donne la clé, on lui donne le téléphone, on lui donne sa carte bancaire, on lui remplit son compte. Et puis,
c'est vrai.
Et puis ben, il va se débrouiller, le petit gars ou la petite...
Et quand on ouvre les yeux, c'est parfois trop tard. On parlait de harcèlement, on parlait de problèmes d'estime de soi.
Et on est passé à côté de plein de petites choses. Et c'est vrai que non, il ne faut pas lâcher aussi rapidement. Ce n'est pas parce qu'on donne les clés, ce n'est pas parce qu'on donne le téléphone que ça y est, il est libre, il peut se prendre en main. Non, c'est toujours des règles de conduite, des règles de vie où on dit, si tu arrives à telle heure, tu dois arriver. Tu m'envoies un SMS pour me dire que tu es bien arrivé. Je veux savoir ce que tu as mangé ce midi. Je veux, c'est des choses,
pour les
garder
parents.
Le lien.
Garde. Des règles pour les parents aussi. Parce que moi, je reçois quelquefois des SMS de ma fille me disant, pourquoi tu n'es pas encore rentrée? Non, mais ça te fait rire, mais c'est vrai.
Bah oui, voilà, ça sert à
parce
ça,
que
le téléphone.
Oui, mais maintenant, ça me paraît évident, maintenant qu'elle me l'a dit. Mais en fait, elle a aussi le droit de savoir à quel moment je vais rentrer.
Oui, oui.
En vrai,
ça
parce qu'elle elle s'inquiète, elle aussi.
Elle s'inquiète.
Voilà.
Ça marche dans les deux sens.
Oui, mais c'est important de le dire parce qu'on leur demande beaucoup de choses. Ils ont quand même pas mal de contraintes et je pense que ces contraintes-là, on peut se les imposer
aussi. Oui,
aussi.
Ouais. C'est de se dire, moi aussi, tu vas rester, mais je vais rentrer à telle heure. Essayez de demander à ce qu'il y ait un juste retour aussi des choses de la part des parents.
Oui.
On impose des choses à nos adolescents, mais aussi, je pense que les parents aussi doivent se les imposer.
Ils nous apprennent des choses,
tellement
de choses. Ouais, ils sont là pour ça, les ados.
C'est eux qui nous font grandir aussi. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Je le constate chaque jour, effectivement. Donc, on le redit encore une fois, c'est pas grave d'être un ado, c'est pas grave d'être un parent d'ado.
Non.
C'est pas une maladie.
Non.
Et c'est chouette d'en parler entre nous. Parce que je trouve que autant les érythèmes fessiers, on en parle énormément. Entre maman, entre... Bon, les papas, peut-être moins. Mais par contre, l'adolescence, quelquefois, on va tous s'enterrer la tête dans le sable. Alors que des générations entières ont des ados en même temps. Hein, faut pas se le cacher. Et c'est chouette de pouvoir dire « Ah bah tiens, moi aussi, ça m'est arrivé.
Ouais.
Moi aussi, je ressens ça. Oh, moi aussi, parfois, j'ai envie de l'emplâtrer. Comment ça, Anne? Pourquoi tu rigoles?
Non, comme ça, c'est bon.
T'as jamais... Non, hein.
Ah, mais moi aussi, alors.
Ah, toi aussi, voilà. Mais nous aussi, on est tous comme ça et on a le droit d'avoir des ressentis et de ne pas mettre notre plan à exécution.
Exactement. Et en fait, ce que je voudrais dire aujourd'hui aux ados, c'est qu'on a tendance à les oublier. Du coup, ils ont tendance à s'oublier.
C'est vrai.
Et on a tendance à oublier que... qu'ils sont en train de grandir, qu'ils sont en train de devenir des adultes. Alors, c'est peut-être parce que ça nous fait peur qu'ils deviennent des adultes.
Ça dit
et
des
du
choses
coup,
de nous, bien sûr.
Exactement. On se met peut-être en retrait pour ne pas avoir à affronter un départ proche. Hein, parce que, ils vont à un moment quitter
l'étape
le nid.
L'étape suivante.
L'étape suivante. Hein, donc, c'est difficile, nous aussi, en tant que parents, d'analyser les émotions. Mais ce que j'ai envie de dire aux ados, ne vous mettez pas en retrait, quoi. Vivez ce tel que vous êtes, ressentez les choses telles que vous les ressentez, mais surtout, exprimez-les, partagez-les. Ne vous oubliez pas, vous. C'est ça, c'est très important.
Merci, Anne. On ne leur dit pas assez.
Non, on ne leur dit pas assez. Et dans ce que je dis aussi, c'est n'oubliez pas que vous avez votre corps à vous et utilisez-le. Déployez-le. Faites des activités sportives, dépensez-vous, bougez. Vous avez besoin de bouger. Et vous avez votre outil en vous, quoi. Ça, c'est quelque chose. Et souvent, on l'oublie, on le met de côté, on a un peu, notre corps change, on s'intériorise, on est un petit peu introverti, les épaules qui rentrent, on n'ose pas se montrer. On n'ose pas. Mais on s'en fout, ça. On s'en fout. Enfin, c'est vraiment. Non, mais c'est vrai, je le dis spontanément,
oui,
je dis, mais essayez d'être ce que vous êtes, vivez-le et on ne vous jugera pas.
Exactement.
Et ça, c'est important. Nous, en tant qu'adultes, on ne vous juge pas, on essaye de vous accompagner. Et je sais que ce n'est pas facile entre jeunes parce qu'on est tout le temps dans la moquerie, des choses comme ça. Mais c'est important.
Merci. Ben, y a des ados qui veulent nous demander des petites choses ce matin.
Et maintenant,
c'est l'heure de la rubrique.
Question d'ado. Alors, on a une jeune fille de 18 ans qui nous demande « Comment dire à ma maman que je suis encore un peu sa petite chérie ?» C'est joli, ça.
Oui, alors ça, c'est... comment dire ? Oui, parce que voilà, il y a eu tellement cette rupture, en fait, de l'adolescent où chacun a vécu de son côté et puis en disant « ça y est, elle est partie, elle va se construire. Hein. » Du coup, il faut réaffronter, en fait, sa maman. Il faut aller rechercher le lien avec la maman, le lien d'attachement. Donc, je dirais tout simplement, quoi, peut-être... juste lui laisser ou peut-être un petit message si elle ne peut pas lui dire par voix orale, lui écrire un petit mot.
Oui, conseille cette émission.
Ouais, oui, aussi, voilà. Et puis voilà, c'est important de recréer le lien, voilà, qu'elle y aille, qu'elle lui écrive.
Il y a comme une forme de rupture physique aussi, quelquefois, hein, quand on voit nos enfants grandir.
Tout à fait. Et parfois, on a peur de le dire à la maman, on a peur de l'exprimer oralement.
C'est ça.
Mais on peut l'exprimer par écrit, à travers un petit mot ou un petit poème, quelque chose de doux. En expliquant en fait notre peur, parce que là, c'est, je pense que c'est une peur de la jeune fille, parce qu'elle se voit grandir en fait, hein, et de dire maman, n'oublie pas, je suis toujours là et j'ai encore besoin de toi. Donc oui, je resterai ta petite fille. Et moi, j'ai ma grande fille qui vient d'avoir 23 ans hier, ça reste toujours ma petite fille. Quoi.
Exactement. On a un garçon de 14 ans qui nous dit que ses parents n'ont jamais un seul commentaire positif sur lui, c'est que du négatif. Et il a rajouté en rigolant, j'imagine, hein, je peux les taper.
Oui, il peut les taper en prenant un punching ball et puis voilà, il les imagine et puis voilà, il peut se défouler comme ça, solution. De cette manière-là, en disant j'en ai marre. Après, oui, c'est compliqué parce qu'ils sont dans la négation toujours, les parents, et peut-être lui dire un moment, mais est-ce que vous avez quelque chose de positif à mon égard?
Ouais, c'est ça.
Qui pose tout simplement la question.
Et finalement, il faut différencier un peu les résultats scolaires, du comportement.
Oui, aussi. Et puis dire, mais en même temps, est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui me concerne, moi? Qu'est-ce que vous avez à dire de bien sur moi,
voilà,
clairement
c'est ça.
Qu'est-ce que vous me trouvez de bien? Parce que tout ce que vous dites, c'est nul, en fait, c'est pas bien.
Voilà. Merci Anne.
Merci à toi Julie.
On va terminer avec...
Et maintenant,
c'est l'heure de la rubrique...
Les ados vous conseillent.
Alors, les ados vous conseillent le merveilleux roman, qui bouleverse autant les ados que les parents d'ailleurs, qui s'appelle Continuer, de Laurent Mauvigny. Donc c'est un roman... sur le projet d'une mère dont le fils bascule peu à peu dans la petite délinquance et qui décide de tout quitter pour l'amener avec elle plusieurs semaines dans les montagnes du Kirghizistan. Je ne sais pas si je l'ai dit correctement. Donc ils sont tous les deux seuls avec des chevaux qu'elle a achetés et qu'ils montent tous les deux. Et en fait, elle a la force d'entreprendre ce voyage pour elle, pour eux, pour reconstruire leur relation. Et c'est un roman absolument magnifique où celui qui finalement va aider l'autre n'est pas forcément celui qu'on croit. Et c'est passionnant de voir ce lien se retisser. Je vous le conseille vraiment. Alors, les ados qui n'ont pas envie de lire, il est sorti en film, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce que ça vaut, je sais que c'est avec Virginie Efira, mais je ne l'ai pas vu. En l'occurrence, le roman est tellement beau, donnez-vous l'autorisation de le lire, vraiment.
Et après d'aller voir le film.
Et oui, pourquoi pas, exactement, pour mettre des images sur tout ça. Merci encore, au revoir, à bientôt.
Merci Julie.
C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche, c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30,